Alors, ce matin, ma prédication, j'appelle ma prédication « Marche et ne reviens pas en arrière » ou « Avance, avance et ne reviens jamais en arrière ». Et tout de suite, on va prendre un passage dans la parole de Dieu. Donc, on a déjà parlé « Suivre Jésus », etc., vous vous souvenez. Voilà, et puis donc, je continue un peu dans la même direction. Donc, le premier livre de Rois, chapitre 19, et le verset 20, qui nous dit Élisée abandonna ce bœuf, Élisée, et courut après Élie. Donc, n'oubliez pas, Élisée. Il lui dit Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va, vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je te fais. Alors, quand on lit le contexte avant et après, on parle d'Élie. Alors, quelquefois, voilà, on m'a dit, toi, bon, il n'y a pas que moi, mais quelquefois on va dans l'Ancien Testament, et on base notre prédication sur l'Ancien Testament, sur des histoires, etc. Et certaines personnes me disent, ben, je n'ai pas compris grand-chose. Et ça se comprend pour ceux qui débutent avec de la foi, que vous ne comprenez pas. Et puis d'autres, des anciens chrétiens, quand on cite Élie, ben, tout de suite, vous voyez l'histoire, Élie, la grande de Dieu, le prophète, etc. On est bien d'accord. Mais celui qui ne connaît pas l'histoire, ce n'est pas facile. On est bien d'accord. Et puis on est ensemble, pour comprendre ceux qui sont derrière nous. J'ai toujours fait attention, parce que moi j'aime bien avancer, j'aime bien même courir. Mais chaque fois, j'ai tourné la tête de ma vie derrière pour voir si je suis suivi, même dans la famille. Parce que c'est comme ça. Et puis donc, sachez, voilà, Élie, un homme de Dieu. Élie qui a fait beaucoup de miracles. Élie qui était prophète, qui était une bénédiction pour beaucoup de personnes, pour un peuple. Mais aussi, c'était quelqu'un qui dénonçait les péchés, et dénonçait les faiblesses de rois, etc., qui exhortait ceux qui s'éloignaient de Dieu. D'accord? Et puis ensuite, Élie a vieilli. Il avait certainement les cheveux gris comme moi déjà. Il a vieilli et puis voilà, il savait qu'un jour il va falloir quitter cette terre. Donc, il se tourne vers Élisée. Élisée, c'était son serviteur. La même chose pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Élisée, ouais, mais c'est qui? Oui, Élisée, dans l'Ancien Testament, il était le serviteur d'Élie, un grand homme de Dieu. Et puis ensuite, il est devenu le successeur d'Élie. Donc, Élisée a succédé donc, à Élie et il est devenu un prophète, un homme de Dieu qui parlait au nom de Dieu, qui annonçait les paroles prophétiques et qui exhortait aussi même le roi parce qu'il y avait beaucoup de péchés, etc. Donc, voilà, cette histoire, ce verset nous parle d'Élie, Élisée, et puis ensuite Élisée, qui a pris donc son manteau, hein, et il est question d'un manteau, hein, donc Élie qui vient, il prend son manteau, et il l'a mis sur Élisée, d'accord? Et puis ensuite, donc c'était une action prophétique, quelque part d'Élie sur Élisée, une action prophétique, un manteau. Pourquoi? Parce qu'il y avait toute une vie autour d'Élie, une vie relationnelle avec Dieu, l'esprit prophétique, et c'est Dieu qui parlait souvent par Élie. Et Élie, il prend son manteau et puis il met sur Élisée pour que Élisée devienne comme lui. Tellement Élisée, il a fait beaucoup plus de miracles, deux fois plus de miracles qu'Élie. Une quinzaine, et là, il y avait une trentaine. Voilà, c'est à vérifier ça, mais plus ou moins c'est ça. Donc, voilà, le montant représente une succession spirituelle, prophétique et équipement spirituel. Oui, c'est bien d'être intelligent. Oui, c'est bien d'avoir connaître les choses. Mais il y a, au-dessus de tout ça, il y a Dieu, il y a les surnaturels. Amen. Donc, quelque part, c'était aussi un appel de Dieu pour servir les projets de Dieu. Alors, vous allez dire, mais ce n'est pas Dieu qui parle. C'est Élie. Mais justement, Dieu se sert d'Élie, d'une parole prophétique, pour dire, voilà, viens, tu vas servir le projet de Dieu. Qu'est-ce qui se passe plus loin? Donc, on voit que Élisée, il a compris. Il y a quelque chose surnaturel qui se passe pour lui. Voilà, il avait une certaine connaissance, d'accord? Il servait Élie, il a servi Élie dans son service. Donc, il commence à s'organiser. N'oubliez pas toutes ces expressions. Élisée, il s'organise en fonction de son appel pour servir le projet de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il demande à Élie, écoute, est-ce que tu peux me permettre d'aller chez mes parents pour leur dire au revoir, pour les serrer dans mes bras, pour leur dire ce qui s'est passé, etc. C'est logique, hein? Et puis Élie, il a accepté. Donc, il lui a dit, très bien, va, mais reviens, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Je te déposais à mon tour, ma succession. Ça va? Donc, il s'organise. N'oubliez pas cette pensée, on reviendra en ce qui concerne nous. Il s'organise en fonction de l'appel de Dieu pour servir ses projets. La séparation avec son père, avec ses parents, ce n'était pas facile. Donc, il s'organise. Ensuite, il avait 12 paires de bœufs. Et donc, 12 paires de bœufs à l'époque, c'est comme si qu'aujourd'hui, vous parlez avec un chef d'entreprise, avec un homme qui dirige une entreprise, un homme qui gère les finances, voilà. Vous avez affaire avec un directeur de la banque, vous avez affaire avec un homme d'affaires dans le bâtiment, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Et 12 paires de bœufs à l'époque, c'était quelque chose de très, très important. Il y avait les finances là, dans ces bœufs. Donc, je suis appelé, je dois suivre donc Élie. Mais j'ai 12 paires de bœufs. Mais finalement, il a réglé tout ça très vite. Il s'organise parce qu'il comprend qu'il rentre dans quelque chose de très important, dans une vie différente, dans un domaine spirituel, d'accord? Et puis donc, il a donc offert, il laisse tout ça et il offre en plus une paire de bœufs. Il offre un sacrifice. Donc, n'oubliez pas, il est question, montant, appel, Élisée s'organise, et puis ensuite le sacrifice, parce qu'il a offert un sacrifice, une paire de bœufs, sacrifice. Et puis donc, il a suivi Élie pour servir tout simplement les projets de Dieu. Et nous, aujourd'hui, ce matin, qu'est-ce qu'on peut prendre de tout ça comme enseignement? Je parcours un peu cette histoire parce que je ne vais pas développer ça au détail. Voilà. Il y a d'autres choses, d'autres enseignements. J'ai pris juste quelques points de cette belle histoire. Alors, mes amis, Éphésiens 2, versets 8 à 10, nous dit ceci. Donc, il s'agit de notre appel. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dites les uns aux autres, par la grâce tu es sauvé, par la grâce, pas par les œuvres. Fred, dis à Pascaline, tu es sauvé par la grâce. Pascaline, tu dis. Bon, dis à Chanel. Par la grâce. C'est tellement profond. Par la grâce, j'étais condamné à la mort et Dieu m'a gracié parce que j'ai répondu à son appel au salut. Donc, pardon, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi, puisque nous écoutons, nous entendons la parole de Dieu, et la parole de Dieu fait quoi? Fait grandir, fait nourrir notre foi, et c'est ça. Donc, sauvé par grâce, et cela ne vient pas de vous, au plus, regardez, tu n'as rien fait pour être sauvé. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oh là 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 là. Chanel, mais qu'est-ce que tu as fait pour être sauvé? Pas grand-chose, que des... Pas mal de bêtises. Hein? Bon, moi aussi. On vient tous de quelque part. Perdu, on était perdu. Un don de Dieu qui tombe comme ça. Le salut, la vie éternelle. Oh! Formidable, non? Très bien, on va avancer. On ne revient pas en arrière. Donc, notre appel, sauvé par grâce, pas par les œuvres, vous avez compris, mais pour faire des bonnes œuvres. Pas par les œuvres, mais pour faire des bonnes œuvres. D'accord ou non, Aurélie, c'est bon? Bon. Donc, je répète, pas par les œuvres, mais pour faire des bonnes œuvres. Vivre dans la... Alors, ça veut dire quoi, de bonnes œuvres? Vivre dans la sainteté. Mise en pratique la parole de Dieu, les bonnes œuvres comme ça. Si vous voulez faire des bonnes œuvres, lisez la parole de Dieu. Je vous ai dit, hein, la prière, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, voilà, nous suscite, nous montre, nous dirige, nous donne des instructions, comment faire, comment agir, comment parler, etc. Vivre dans la sainteté et honnêteté, bien sûr. Et la parole de Dieu nous dit ensuite, Romains 8, verset 17, Or, si nous sommes enfants, ben réfléchis maintenant, est-ce que tu es vraiment un enfant? S'il y a des doutes, ben il faut briser ça. Parce que si tu es ce matin, c'est parce que tu es enfant, mais quelquefois, ben voilà, il y a peut-être encore des doutes, des imperfections, etc. Donc Paul dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est profond, non? Même si pour nous, pour les anciens, on connaît ça par cœur. Mais moi, chaque fois, quand je lis ça, quoi, Seigneur? Je suis héritier, co-héritier. Pourtant, je n'ai rien fait pour. Et je vais hériter, j'ai déjà hérité, puis j'hérite tout le temps, chaque jour, de plus de richesses en Dieu. Amen. Donc, héritier et co-héritier de Christ, donc vous voyez, co-héritier, c'est Voilà, c'est la même chose que Christ. Hein. On hérite la même chose, le même statut, si vous voulez, que Jésus, qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu lui-même. Mais moi, ça me dépasse. Hein. Pardon? Ça nous dépasse tous. Si on est tellement heureux, on ne se pose pas de questions. Sinon, après, c'est la théologie, puis ça nous éloigne plutôt de Dieu. Que si on commence à décortiquer ça, c'est juste vivre, c'est juste accepter. Ah bah oui, Seigneur, merci. Oh là là. Formidable, hein, une jeune fille qui donne sa vie à Jésus pendant le Covid, elle n'a rien fait. Hein. Ah bah, elle doit être vraiment très spirituelle maintenant, parce que Dieu s'est approché de toi comme ça. Elle n'a rien fait pour. Donc, oui, si toutefois nous souffrons avec lui, on va déprendre aussi part à sa gloire, des souffrances, des épreuves. Si je commence à vous partager nos épreuves, déjà dans le couple, dans la famille, au niveau d'église, au niveau de certaines personnes, il y en a tellement. Mais j'ai toujours décidé de fermer les yeux sur tout ce qui est négatif et de se dire, Jésus, tu as accepté mourir pour nous, souffrir sous la croix de Golgotha. Ah ben moi, j'accepte aussi passer par des épreuves. J'accepte d'avoir le mal. J'accepte de me laisser encore purifier. Voilà, parce que ça vaut la peine. Amen. Voilà. Donc, si toutefois nous souffrons avec lui, on va déprendre aussi par à sa gloire. Il y a tellement de choses. Donc moi, j'ai toujours accepté. Oui, ça, ça ne va pas. Oui, ça, ça ne va pas. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent parce qu'il y a ça. Ils pensent que c'est la faute de Dieu. Dans les épreuves, dans les difficultés, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ah ben moi, j'ai toujours dit, j'accepte tout ça parce que c'est la vie. Et je me confie en toi, Seigneur. Je vis les bénédictions que tu me... Je vois ce qui est positif dans ma vie. Amen. Parce que, on vient de dire, nous sommes les enfants. Donc, vous voyez, nous sommes les enfants. Nous sommes appelés à avoir ce statut d'enfants. D'accord. Ensuite, on s'organise donc le fait que nous sommes tellement bénis. Voilà. L'appel de Dieu est tellement puissant, donc nous nous organisons, on s'organise en fonction de notre appel au salut. Alors, aujourd'hui, je ne parle pas ce matin, je ne commence pas à vous dire que je suis pasteur, donc je m'organise en fonction de... Non. Voilà, j'enlève le chapeau, d'accord? On est tous au même niveau avant tout, oui, après les ministères, mais avant tout, nous sommes tous appelés à servir Dieu, à faire des bonnes œuvres, le fruit, etc. D'accord? Et puis ensuite, il y a un appel ministériel. Je ne parle pas de ça. D'accord? Donc, nous sommes tous concernés. Donc, on s'organise en fonction de notre appel de salut. D'accord? Puisque nous sommes sauvés. Donc, il y a la vie professionnelle. Combien nous avons besoin aussi d'avoir la confiance en Dieu, je comptais sur Dieu, je suis passé par là, voilà, j'ai dû faire des formations, et puis des formations, et des formations, parce que je voulais gagner plus pour la grande famille, voilà, et puis Dieu m'a béni, puis combien parmi vous, vous étiez aussi béni, vous êtes béni. Vous êtes bénis, on a écouté le témoignage de David, là, la dernière fois. Ça va, les finances tombent, c'est bon? C'est bon? Oui, parce que, bon, les dettes, c'est fini maintenant avec le pactole que tu vas toucher. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre, Jean, qui m'a partagé un témoignage formidable, ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie professionnelle, voilà, etc. Donc, il n'est pas question, je laisse tout, Dieu va me donner, ça va tomber. Ça va tomber si nous sommes sérieux avec lui. Dieu va bénir ce que nous avons. Voilà. Je mets en marche et puis ensuite Dieu intervient. Amen. Voilà. Donc, la vie professionnelle avec Dieu, la vie familiale, j'ai longuement parlé dimanche dernier là-dessus, avec Dieu. Voilà. Une vie d'église, la même chose. Ben, regardez, pour que ce culte soit réussi, pour que nous puissions avoir un culte, ben, c'est parce que tu es là et je suis là. Imaginez-vous, bon, qu'un pasteur vient ou une équipe va venir ici, et puis s'il n'y a personne, ah ben oui, Dieu va honorer notre prière, même si on est à deux ou trois, mais on n'a pas besoin de la salle. D'accord? Donc, voilà, on est ensemble, ensemble, nous sommes appelés ensemble à être sauvés, et nous sommes ensemble, ensemble, appelés ensemble à agir et faire des bonnes œuvres. Je peux faire quelque chose tout seul, mais je peux faire plus à deux, et puis je peux faire encore plus si on est à dix. Unis, ensemble, on va dans la même direction, dans la même vision. Amen. Ah ben, on a besoin de vous. Hein. Vous avez dit oui. Amen. Pour que l'Église puisse grandir. Une vie d'Église ensemble. Ensuite, on a parlé de sacrifice. Le sacrifice. Alors, je me souviens, il y a Sandy qui nous parlait un peu d'une partie de leur témoignage. Et bah, j'étais interpellé, même déjà longtemps, longtemps, ils nous ont un petit peu raconté leur témoignage, mais pas vraiment. Voilà, et puis après on oublie. Et là, j'étais vraiment interpellé parce que tu nous as dit, Sandy, que tu avais tout pour bien vivre en Angleterre. Sur le plan professionnel, la promotion, etc. C'est ça. Hein? Bon, Sandy, je te donne deux minutes. Tout le monde n'était peut-être pas là. Viens nous dire ces quelques mots. Voilà, comment vous vous êtes organisé, voilà, pour venir en France, servir Dieu en France. Il y a le sacrifice, tu as prononcé le mot sacrifice.
J'ai deux minutes, donc je vais faire court. Si vous voulez un peu plus, bah, c'est dans l'enregistrement du live, ouais. Donc vous pouvez écouter. Non, c'était ce que j'expliquais, c'est simplement que, professionnellement parlant, pour moi et pour Paul d'ailleurs, ça se passait très très bien. En Angleterre, on était établis, on était dans une église, on servait, on avait une maison, on avait tout pour bien vivre. Mais on savait qu'à un moment donné, Dieu allait nous appeler à quitter l'Angleterre. Ça faisait plus de 10 ans qu'on savait qu'un jour l'appel viendra. C'était juste on attendait le feu vert. Et puis le feu vert arrive. Et ce que je disais la dernière fois, c'est que au moment où l'appel a été confirmé par Dieu, et c'était confirmé séparément à Paul et à moi la même semaine. Donc on n'était pas dans le doute. On savait que c'était le bon moment. Et donc je suis allée au travail et j'ai démissionné. Et parce que j'avais une position de haute responsabilité, j'avais 6 mois de préavis à travailler. Je ne pouvais pas juste quitter comme ça. Donc, ça faisait 6 mois où j'étais sur mon lieu de travail, en sachant qu'en fait, que je ne serais plus là. Et je voulais quand même bien m'investir dans mon travail. Ce n'était pas une question de ouais, « bon, j'ai 6 mois, je ne fais rien ». Mais je voulais quand même laisser un bon témoignage derrière moi aussi. Il y avait un moment, l'autre chose qu'on a fait, on a mis notre maison en vente. Donc j'avais démissionné, on a mis la maison en vente. La maison a vendu dans une semaine. On s'est dit, oh, on est vraiment engagé maintenant sur ce chemin-là, parce que là, on ne s'y attendait pas. On n'avait même pas passé par une agence, on a mis un panneau dans le jardin d'avant. On vivait sur une rue sans sortie, donc c'était pas un lieu de passage. Et voilà, quelqu'un a vu le panneau, et donc une semaine, bon, ok. Donc, plus de boulot. Paul a dû contacter ses clients pour dire, bon, écoutez, je vais partir en France. Est-ce que vous voulez continuer à travailler avec moi ? Parce qu'il était indépendant à l'époque. C'est pas tout le monde qui veut travailler avec quelqu'un qui quitte le pays. Donc, en fait, on s'est vraiment dépouillé de ce qu'on avait, en sachant que l'appel venait de Dieu. Mais en fait, on ne savait pas ce qu'on allait trouver de l'autre côté. Et ce que j'expliquais la dernière fois, c'était que, en fait, je pense que, tu sais, dans nos têtes, on savait que c'était un chemin de sacrifice, mais dans ton cœur, il faut le vivre parfois pour savoir ce que c'est. Parce que même, juste pour vous donner un exemple, pour être très très concret, aujourd'hui, 20 ans plus tard, je gagne la moitié de ce que j'ai gagné à l'époque en Angleterre. Donc c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça faisait. Alors on était très confortable. Très confortable. Et Dieu nous a bénis. Il nous a bénis ici, avec du travail. On a vraiment pas à se plaindre. On a une maison, on est très bien. Mais c'est vrai que ce n'est pas là où on était. Mais c'est un sacrifice qui valait vraiment la peine. Parce qu'on savait qu'on marchait sur le voie que le Seigneur nous avait préparée. Et que finalement, on aurait pu rester là-bas. Dans l'abondance matérielle. Mais finalement, tu n'as rien. Si tu n'es pas sur le chemin que Dieu a préparé pour vous, vous n'avez rien. Vous n'avez rien du tout. On peut faire bonne figure, mais en fait, tu perds la richesse de ta vie. Et nous avons découvert, on a passé par des moments assez compliqués. Ici en France, surtout au début, lorsqu'il fallait trouver un travail, lorsqu'il fallait tout arranger, Dieu nous a toujours confirmé qu'on était dans le bon endroit. On n'a jamais regretté notre choix de venir. Mais parfois, tu dis, Seigneur, je suis là pour toi. Au secours! La première année, on n'avait pas bien compris le système d'impôts ici. Donc, à la fin de la première année, tout d'un coup, tu as une facture pour quelques milliers et tu dis, mince, je n'étais pas du tout prêt à ça. Et ce genre de choses-là, en fait, quand tu changes de pays, tu changes plein de choses. Et les choses que tu pensais être acquises ne sont plus acquises. Mais Dieu s'est toujours montré fidèle et le sacrifice, il nous donne autre chose, en fait. Tu continues à marcher. Mais le sacrifice, ça continue. Il y a toujours les choses que Dieu va mettre devant nous. Ce n'est pas juste que tu fais une fois et c'est fini. Notre vie, c'est une vie de sacrifice devant Dieu. Ça veut dire qu'à tout moment, dans tous nos choix, il s'agit de dire à Dieu, bah Dieu, c'est quoi ton... On parlait de ça avec Antonia dans la voiture ce matin pour venir ici. Il y a des moments où tu es obligé de mettre les choses devant Dieu. Il faut dire, qu'est-ce que toi tu veux ? Qu'est-ce que toi tu veux ? Parce que je vois ce qui pourrait me faire du bien. Mais est-ce que c'est ce que tu veux ? Est-ce que c'est ce que tu veux ? Et voilà. Donc, c'est une série de sacrifices, mais avec le bien suprême à la fin.
Merci. Donc, vous avez entendu ce sacrifice parmi les autres. Parmi vous, il y a tellement de personnes qui sont là, qui peuvent témoigner. Voilà, on a sacrifié des choses pour servir Dieu, voilà, pour servir Dieu tout simplement, parce que nous vivrons dans l'éternité ensemble. Donc, le sacrifice, parce que, vous avez vu, Élisée, il a offert un sacrifice. Ça lui a coûté. Mais Cobia, il était béni après. Il a donné, il a offert le sacrifice, il a changé sa vie, sa direction, et puis Dieu l'a béni, il était une bénédiction. Voilà, il n'est pas resté avec le bœuf, mais il est resté. Il a été parmi les gens méchants quelquefois. Il a interpellé, il a exhorté, il a fait du bien à beaucoup de monde parce qu'il a accepté, il a offert le sacrifice. Donc, offrons à Dieu aussi notre potentiel, nos talents, d'accord ? La prière, le service. Ensuite, il y a aussi les finances. Il y a quelqu'un qui m'a dit... il n'y a pas longtemps, ben moi, parce que, vous savez, dans les milieux évangéliques, ben, Voilà, on a besoin de vivre, on a besoin des bâtiments, bah, tout ça, ça coûte, ça vous le savez, il faut les finances. Donc, le principe, au général, on parle de la dîme, mais quelqu'un m'a dit, moi, je n'accepte pas vraiment, vraiment la dîme, la question de la dîme, parce que si je vais observer la dîme, je ne vais pas pouvoir donner plus. Donc, la dîme, c'est le repère, et puis, ça me permet comme ça, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas quelque chose fermé, ça me permet de donner plus, parce que nous donnons la dîme minimum sur les bruts. Et puis, d'autres donnent la dîme, et puis voilà, un petit peu plus ou moins, voilà, on est comme ça, sur les nets. Et puis, d'autres, ils donnent 10 euros par mois, et puis c'est l'affaire entre la personne et Dieu, et d'autres donnent un petit peu, etc. Et c'est personnel. Mais quelque part, sachez que si nous sommes là, c'est parce que nous participons aussi financièrement. C'est un sacrifice, parce que tu donnes une partie de ce que tu gagnes, mais cette partie est une bénédiction. Cette bénédiction, parce que regardez ce que nous représentons déjà. Amen. Combien de gens qui sont passés par ce bâtiment ici? Parce que nous offrons un sacrifice au Seigneur, d'accord? J'ai eu contact avec pas mal de personnes, des experts, et puis voilà, l'assurance, etc. Et chaque fois, ben, pour la maison, parce que le toit a été brûlé, d'accord. Et donc, voilà, je me présente. Ah, c'est vous, il n'y a pas de problème avec... Ben, pourtant, ils ont les dossiers. Moi, j'ai dit, c'est pas ma maison, c'est pas, je ne suis pas propriétaire. Le propriétaire de cette maison, mais c'est une association, donc je suis président, je représente l'association, et donc l'association, et puis j'ajoute l'association Église évangélique. Et souvent, quand j'ajoute Église évangélique, on baisse la tête comme ça. C'est comme si que, ils ont affaire avec éliminer l'Église évangélique. Ah bon? Mais bon, après, il lève la tête, et puis il y a un petit sourire, et puis on continue, c'est les affaires. Mais quelques-uns, j'arrive à le faire entrer ici dans la salle, et puis, ah! Alors moi, j'ai même pas dit un mot, il a baissé la tête quand j'ai dit que l'Église évangélique, et quand il rentre dans la salle, même cette salle reflète une bénédiction pour ces gens. Comme ça, vous le savez, je vous raconte ça. Le dernier témoignage, c'est un charpentier, donc j'appelle un charpentier qui est venu, voilà, pour voir un peu, voilà, j'essaye de voir un peu comment on va pouvoir faire quand l'assurance va nous donner de l'argent. Et puis, donc, c'est un jeune, voilà, une bonne trentaine. Et puis, voilà, donc je lui ai dit la même chose. Bon, voilà, je ne suis pas le propriétaire, je suis le président d'une association, Église évangélique. Oui, Église, c'est parce que je l'ai accueilli là. J'ai vu l'Église évangélique, ça passe, il y a quelque chose. Voilà, vous comprenez, il n'a pas baissé la tête, mais il y a quelque chose dans son cœur. Et puis après, il me dit, dans ces cas-là, vous êtes certainement le pasteur. Je dis oui, je suis président, mais aussi le pasteur. D'accord. Ah, s'il me parle comme ça, ça veut dire qu'il y a une notion en ce qui concerne donc notre langage, l'Église, etc. Et je dis, donc vous êtes croyant. Ah ben moi, je suis croyant, mais je ne fréquente pas les églises. Dans l'église, il y a le péché, on tolère les péchés, etc. etc. Il me sort tellement d'histoires, l'église. Bon, j'ai dit, mais bon, je voulais vraiment savoir plus. Et finalement, on passe les détails. Il m'a quand même dit à la fin, après une conversation, j'ai fait partie d'un groupe, ah bon, donc, et je me suis fait baptiser. Ah vous êtes comme moi. J'ai accepté Jésus il y a 2 ans, donc il n'y avait pas beaucoup de connaissances. Ils ne connaissaient pas notre langage évangélique. D'accord, 2 ans. Ah j'ai dit, c'est bien. Vous êtes dans un groupe, dans une maison. Et l'église, c'est pas les bâtiments. L'église, c'est vous et moi. Et Dieu habite en nous. Et il me regarde, il ne connaissait pas un peu tout ce langage-là. Et puis je lui ai dit, vous savez, nous, on a commencé à la maison, si on était quelques personnes, et puis après ça a grandi, on a acheté une salle. La salle, c'est un outil, tout simplement. Ça nous permet de rencontrer du monde. Si je devrais accueillir tout le monde à la maison, il n'y a pas de place. Bah, vous êtes dans un groupe. Certainement, vous allez grandir, vous allez acheter la salle. Il me regarde comme ça. Bah, je dis, venez voir la salle. Il rentre là et il a changé le visage positivement. Il ne s'attendait pas à ça parce qu'il n'a pas vu l'Église comme il avait dans sa tête l'Église. Vous comprenez? Pour lui, l'Église, voilà. Et je lui ai dit, vous savez, tu sais, moi je ne suis pas anti-catholique, anti-les églises, je suis anti-personne. J'ai répondu à un appel de Dieu. Comme ça, je suis libre. Amen. Je ne juge personne, c'est l'affaire de Dieu. Et puis voilà, c'est un bâtiment. Et il a vu. Et c'est comme si il y avait une présence de Dieu qui est tombée sur lui. Et il m'a dit, ah ben vous avez fait un travail remarquable. Ah, c'est beau ce que vous faites. J'avais l'impression qu'il est tellement touché comme s'il était dans une convention où il y a l'onction de Dieu, où il y a des prophètes, où on chante fort, dynamique, etc. Et il ne s'attendait pas à ça. Alors moi, j'ai dit, ah ben merci pour le témoignage. Mais je reviens aux finances. Ben, tout ça, c'est parce que vous êtes là. Nous sommes là ensemble. Amen. Et puis on est aussi le témoignage, pas juste la parole, mais aussi les œuvres. Ce sont les témoignages. On n'est pas sauvé parce qu'on a construit la salle, mais on est sauvé pour faire les œuvres. D'accord ? Juste pour terminer, il y a donc le Tour de France actuel, et certainement certains vous suivez un petit peu, comme moi. Et puis, donc ici, c'était hier, je pense. Il y a un coureur français qui s'appelle Martin. Et il était assez loin dans les classements. Et tout à coup, il avait cet échappé. Et Martin était là. Et puis ensuite, il y en a un qui est parti avant. Et il est dans les groupes. Et puis voilà, il commençait à distancer certaines personnes qui étaient à la deuxième, troisième, quatrième place. Et en arrivant, voilà, donc, il se retrouve à la deuxième place. Deuxième place. Il lui manque 4 ou 5 minutes encore pour... pour devenir premier. Mais deuxième place, c'est déjà honorable, hein, on est d'accord. Et puis donc, les commentateurs disaient, voilà, vous savez, ça parle tellement. Hein. Et puis, mais ils ont quand même dit, s'il est à la deuxième place, c'est parce que pendant ces plusieurs étapes, il était costaud. Il était là. Il faisait un travail, voilà, tranquillement. Il a construit. Il ne s'est pas exposé comme certains, voilà, on sort, on court et puis après ils vont dans le mur. Et s'il est dans la deuxième place, c'est qu'il y a eu un travail. Ah ben dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Il y a la prière, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, qu'on prie comme ça. Il y a la méditation de la parole de Dieu. On est là. On est là. Il y a des combats qui arrivent. On est toujours là. Et puis tout à coup, voilà, Dieu nous accorde une gloire, de belles choses, de bénédictions. Et en même temps, nous serons dans l'éternité ensemble avec Jésus. Tout ce que je peux vous dire ce matin. On s'est mis en marche ensemble. On ne revient pas en arrière. Allô ? On s'est mis en marche et Dieu est avec nous. Vous savez, on doit gérer et s'organiser. Moi, à ma place, maintenant, je vais vous parler un petit peu, encore 2 minutes, de ministère. Voilà. Je reçois, il y avait un courrier ici dans la boîte aux lettres ce matin, je lis. Et puis voilà, on nous demande, 3 églises nous demandent l'adhésion à Emma, dans notre famille d'église. Voilà. Je dois gérer ça, je dois répondre. Hier soir, j'ai reçu un coup de fil de Mayotte. Nous avons une église à Mayotte, nous avons même soutenu financièrement. Et puis donc, le pasteur, le jeune pasteur de La Réunion, donc l'île de La Réunion, qui fait un travail à Mayotte, m'a téléphoné pour me dire que ça s'est bien passé, etc., une réunion là-bas. Et il m'a demandé, écoute, il y a une église d'une centaine de personnes, ils veulent vraiment faire partie de moi, de nous. Et il m'a dit, voilà, je lui ai donné ton numéro de téléphone et puis il va prendre contact avec toi. Et moi, je lui ai dit, écoute, bon, c'est bien, mais c'est à toi de faire le boulot. C'est à toi. Déjà, tu travailles au nom d'eux demain. Tu as une couverture spirituelle. Alors moi, je ne peux pas tout faire. Vous comprenez? Il faut gérer. Oui, il y a coup de fil, mais après, fais le boulot. Dans l'Est, on nous demande aussi l'adhésion de groupes qui veulent vraiment faire partie. On a fait une bénédiction au niveau de la famille, notre famille d'église Emma, pendant le Covid. Ça grandit. Là, avec les groupes, on s'approche déjà à une quarantaine de lieux de culte. C'est fort, non? Depuis 5 ans. C'est fort. Alors, tout ça, il faut gérer. Il faut prier. Mais en même temps, chaque fois quand je téléphone, chaque fois quand je te donne des conseils, j'ai dit, Seigneur, c'est le phare. Moi, je suis le phare. Je ne suis pas un prédicateur. Tu ne vas pas appeler à un prédicateur avec des roulettes. Mais je suis un prédicateur dans un corps, mais triste, soutenu par l'Église. Sachez, priez pour tout ça là. Alors, la question, ce n'est pas vraiment les chiffres. La question, c'est que chaque groupe, chaque Église, peut gagner quelques âmes. Et puis, vous savez ce qui va se passer. Ça fait longtemps que j'ai pas prononcé ces paroles-là parce que Chanel, une fois, elle m'a dit, Antoine, il faut que tu renouvelles un peu tes histoires. Il ne faut pas répéter tout. Les mêmes histoires. Bon, excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai oublié. Voilà, un jour on sera dans l'éternité et puis les gens vont venir vers nous, hein. Fred, vers toi parce que tu as envoyé un courrier, vers moi parce que voilà, on les a encouragés. Merci Antoine, je suis ensemble avec toi parce que tu as encouragé mon pasteur ou mon responsable du groupe. J'ai donné ma vie à toi, Seigneur, et puis on vivra de belles choses comme ça. Vous savez qu'on verra dans l'éternité Abraham, Jacob, Moïse, on les verra tous. On leur dira merci, Abraham, que tu avais la foi. Vous croyez à ça? Alors moi, j'ai quoi? Lève-nous ensemble. J'ai déjà prolongé, excusez-moi un petit peu. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Nous sommes sauvés, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu m'as gracié, j'étais perdu. Merci parce que tu nous donnes aussi la possibilité de t'offrir le sacrifice, de louange, d'adoration, de notre potentiel, de finance. Et ton œuvre avance. Et puis voilà, nous sommes un témoignage puissant autour de nous, Seigneur. Tellement de témoignages parmi tous ces hommes dernièrement, combien ils sont touchés par des choses visibles, par les actes que tu nous permets de faire. Merci Jésus. On n'est pas sauvé, je répète, à cause de nos œuvres, mais on est sauvé pour faire des œuvres. Merci Jésus.